nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1998, le cabinet des curiosités proposait sur France Culture une série de 5 émissions qui retraçait l'histoire de l'immigration en France. C'était à l'occasion de l'exposition « Toute la France, histoire de l'immigration en France au XXe siècle » organisée par le Musée d'histoire contemporaine. Le troisième volet de cette série était consacré à l'immigration espagnole, plus exactement aux différentes vagues de cette immigration. Emmanuel Hirsch recevait l'historien Émile Temim. Disparu en 2008, Émile Temim était l'un des grands spécialistes de la guerre civile espagnole et plus largement de l'histoire de l'Espagne et du monde méditerranéen contemporain. Créateur, avec Pierre Milza, de la collection « Français d'ailleurs, peuple d'ici, chez Autrement », Émile Temim fut l'un des pionniers de l'histoire de l'immigration en France. Le cabinet de curiosité, une histoire de l'immigration, troisième volet, les immigrations des Espagnols, par Emmanuel Hirsch, avec Émile Temim.
C'est dans un esprit de compréhension, étranger à tout chauvinisme, que doivent être accueillis les ouvriers qui, pour la plupart, font le sacrifice de quitter leur famille pour venir travailler à l'œuvre de reconstruction dans notre pays. Il faut se rendre à l'évidence et considérer qu'au double point de vue économique et démographique, la politique d'immigration suivie par le gouvernement est nécessaire si nous voulons être capables de mener à bien le plan de redressement français.
Ambroise Croizat, mars 1947. Ces populations qui ont fait la France une histoire de l'immigration, aujourd'hui, les immigrations des Espagnols. Émile Temim, la spécificité de l'immigration espagnole, comment on pourrait la caractériser ?
C'est une émigration un petit peu particulière parce que les relations entre la France et l'Espagne sont très anciennes. Il y a eu des rapports très anciens qui se sont établis de part et d'autre des Pyrénées. Et c'est une immigration qui a d'abord été une immigration de proximité. Une immigration qui se fait par les deux bouts des Pyrénées, une immigration par conséquent de gens qui se connaissent, qui parlent la même langue, que ce soit les Basques ou les Catalans. Et puis, peu à peu, au cours, à la fin du XIXe siècle, cette migration devient une migration de travailleurs, mais d'abord, et pour beaucoup, de travailleurs agricoles. Et ça, c'est déjà quelque chose de tout à fait particulier. Il y aura toujours une part de migration paysanne parmi la migration espagnole, une migration plus forte que dans les autres secteurs, que dans les autres groupes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la migration espagnole a toujours été, vers la France, a toujours été à la fois une migration économique et en même temps une migration politique. Le refuge qu'a offert la France, en particulier aux réfugiés politiques du 19e, ça a commencé très tôt, ça a commencé dès le début du 19e. Et puis ça s'est continué à travers les vicissitudes de l'Espagne, les différentes guerres civiles, en attendant la grande guerre civile, celle de 1936. Et à ce moment-là, il y a eu ce cas particulier, exceptionnel, qu'a été le déferlement de plusieurs centaines de milliers de personnes en quelques semaines, en quelques mois, à travers cette frontière. Et ces Espagnols-là, cette deuxième vague d'immigrés, d'immigration, j'allais dire de réfugiés, mais ce sont des réfugiés politiques, va brusquement transformer un petit peu la mémoire même de l'immigration espagnole.
D'une part, les milieux syndicaux, tout naturellement, sont réticents devant une politique d'immigration accrue. D'autre part, l'étude des problèmes économiques et démographiques montre qu'il faut accroître cette immigration parce que précisément les risques de chômage danse, à la suite de l'embouteillage d'un certain nombre de postes clés et de goulots d'étranglement, disparaîtront à partir du moment où une immigration bien orientée dans les mines, dans un certain nombre de secteurs importants par exemple, accroîtra dans l'ensemble de l'économie française les perspectives d'emploi. Telles sont donc les deux thèses, mais en fait, c'est un conflit d'opinion. Tout le monde doit être d'accord théoriquement, on ne l'est pas pratiquement. La question essentielle, telle qu'elle se pose aujourd'hui, dans les semaines actuelles, est une question d'orientation d'opinion. Comment doit-on, comment peut-on persuader à l'opinion française et avant tout à l'opinion ouvrière que non seulement il n'a pas à redouter une immigration, mais même que cette immigration bien orientée accroîtra l'emploi dans la plupart des postes de l'économie. Voilà le problème, je crois, essentiel.
Louis Chevalier, janvier 1948. Alors on va en reparler, Émile Thémy, mais restons sur cette première partie de cette immigration avec quand même un temps fort, c'est 1916. On a l'impression qu'il y a une accélération et aussi une officialisation de cette immigration.
Il y a, en effet, en 1916, il y a une officialisation dans la mesure où les pays qui jusqu'ici fournissaient la main-d'œuvre traditionnelle, l'Italie en particulier, vont cesser, l'Italie est en guerre à partir de 1915, vont cesser de fournir une main-d'œuvre suffisante pour une France qui est en guerre et qui a besoin à la fois de main-d'œuvre agricole, de main-d'œuvre industrielle, et par conséquent qui appelle les gens qui viennent des pays neutres. Alors il y a accélération parce qu'on dit officiellement, en effet, on va faire rentrer une main-d'œuvre espagnole. Les Espagnols ne sont pas les seuls, mais il y a aussi toute la main-d'œuvre coloniale qui arrive à ce moment-là. Mais les Espagnols seront très nombreux et ils serviront en effet à boucher les trous, en quelque sorte, de la main-d'œuvre française qui manque par suite de la guerre.
Alors, ils s'installent dans des régions privilégiées, en tous les cas assez proches, finalement, pour certaines d'entre elles de l'Espagne, dans le Midi, dans la région de Bordeaux. Ça va être les régions dans lesquelles s'enracineront des traditions.
Ben c'est déjà ancien, c'est déjà ancien. Il y a cette tradition de passage des Pyrénées. Les Pyrénées, ça n'a jamais été une barrière, hein. On a donc toujours passé. Et il se trouve que cette migration espagnole va s'installer, continuer à s'installer dans ces départements méridionaux. En dehors des départements méridionaux, il n'y a qu'un cas particulier, c'est celui de Paris. Parce que Paris, c'est un cas particulier en France de toute manière.
Sommes-nous le dépotoir du monde ? Par toutes nos routes d'accès, transformées en grands collecteurs, coule sur nos terres une tourbe de plus en plus grouillante, de plus en plus fétide. C'est l'immense flot de la crasse napolitaine, de la guenille levantine, des tristes puanteurs slaves, de l'affreuse misère andalouse, de la semence d'Abraham et du bitume de Judée. C'est tout ce que recrachent les vieilles terres de plaies et de fléaux. Doctrinaires crépus, conspirateurs furtifs, régicides au teint verdâtre, polacs mités, gratins de ghetto, contrebandiers d'armes, pistoleros en détresse, espions, usuriers, gangsters, marchands de femmes et de cocaïne. Ils accourent, précédés de leur odeur, escortés de leur punaise. Ils arrivent de tous les côtés, sans relâche, sur les océans, par-dessous les montagnes, à plein train, à plein paquebot. Ils arrivent et on les attend. De gauche ou de droite, ils ont toujours des amis. Révolution et coup d'État en offrent l'incessant prétexte. Naguère les Russes, ensuite les Polonais, puis les Grecs, puis les Italiens, que suivirent les Allemands, précédant les Espagnols. À qui le tour ? Sous couleur de droit d'asile, on laisse entrer pêle-mêle et sans la moindre précaution, réfugiés politiques et condamnés de droit commun. Tous d'accord au moins sur un point, le droit qu'ils s'arrogent de nous traiter en pays conquis. Tandis que ceux-ci assomment les ouvriers dont ils volent le pain, ceux-là ne cessent d'insulter à notre patriotisme dans nos propres journaux. Henri Béraud, La France à tout le monde, Gringoire, 7 août 1936.
Comment sont-ils acceptés, comment sont-ils reconnus par la société environnante ? Est-ce qu'il y a de la xénophobie vis-à-vis de ces Espagnols qui arrivent dans ces années ?
Il y a toujours eu une petite xénophobie, mais le fait même que cette migration se fasse dans la direction de départements, de provinces, qui sont des départements ou des provinces proches de l'Espagne, où les communications ont toujours été très anciennes, limite cette xénophobie. Le seul problème, si vous voulez, c'est que c'est une migration de plus en plus, une migration de pauvres, une migration d'illettrés très souvent, une migration de gens qui sont très indépendants et très fiers d'eux-mêmes, et par conséquent, il va y avoir en effet des heurts parfois, peut-être aussi une attitude quelquefois un peu méprisante pour certains de ces nouveaux venus, qui sont justement des gens que l'on va utiliser. Je pense à un exemple très simple. Il y a un endroit proche des Bouches-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, qui s'appelle la dynamite. Et vous voyez ce qu'on y fabrique. Mmh. Et en temps de guerre, bien entendu, c'est un endroit dangereux. Or, là, on va mettre justement des Espagnols. C'est-à-dire qu'on les met, on les recrute dans les endroits qui ne sont pas les endroits les plus favorables, les plus favorisés. Et c'est une migration qui est malgré tout un petit peu méprisée parce que c'est une migration qui, d'une part, effectivement, est faite de gens qui viennent souvent de la campagne, qui ne sont pas habitués à ces travaux-là. Et c'est une migration qui est très itinérante, qu'on ne fixe pas de façon aussi... que l'on a envie de faire, on a envie de les fixer, ils ne se fixent pas. Et par conséquent, on a de ce côté-là, disons, on ne les considère pas tellement bien, mais on les accepte bien. Je ne sais pas si je suis assez clair.
Tout à fait.
On les accepte bien, c'est-à-dire que ceux qui vont se fixer, par exemple, dans les régions minières du sud du Massif central, je pense à De Casseville, je pense à Carmo, où vont se fixer de nombreux Espagnols, ils s'y fixeront tellement bien que plus tard, quand on a enquêté justement dans cette région de De Casseville, par exemple, eh bien, on a eu du mal à leur faire dire qu'ils étaient des descendants d'Espagnols. Ils se sont très... profondément intégré, peut-être, disons, avec ce désir véritablement de se fondre dans la population française qui venait peut-être justement du fait qu'ils étaient mal perçus au départ. Mais finalement, ils ont voulu montrer qu'ils étaient justement des Français comme les autres. C'est peut-être justement la grande différence qu'il va y avoir entre ces Espagnols qui vont venir, justement, cette migration économique, qui va vouloir s'ancrer dans ces départements français, et la migration politique qui, évidemment, va avoir des réactions différentes.
Alors, on va aborder cette dimension de l'immigration politique. Mais avant, j'aimerais qu'on parle un peu de ces solidarités qui se développent avec des associations mutualistes de secours, de soutien.
Oui, ça s'est fait, ça surtout, ça s'est fait un peu dans les grandes villes, à Bordeaux ou à Toulouse, mais ça s'est fait surtout dans le Languedoc. Dans le Languedoc, à Béziers, à Nîmes, c'est là qu'on a vu naître, en quelque sorte, un monde nouveau. Et ces Espagnols, qui étaient très souvent des ouvriers, des gens pauvres, ils ont eu aussi, peut-être justement parce qu'ils se sentaient un peu rejetés, un peu méprisés, cette réaction de vouloir créer, en quelque sorte, un phénomène associatif qui a été très vite assez fort, assez puissant, et ils se sont en quelque sorte organisés de cette manière, avec d'autant plus de volonté qu'ils avaient cette position qui était une position de faiblesse. Par exemple, dans les campagnes de l'Aude ou de l'Hérault, où ils étaient venus en très grand nombre depuis la fin du 19e, et où ils revenaient encore dans l'entre-deux-guerres, eh bien, ils étaient des ouvriers agricoles, essentiellement. Ils ne possédaient pas la terre, très peu possédaient la terre. Et par conséquent, le mutualisme, la solidarité entre les ouvriers était quelque chose qui leur paraissait d'autant plus nécessaire.
Temim, vous l'avez évoqué, il y a ensuite l'aspect politique, notamment avec la dictature de Primo de Rivera, avec ces anarchistes catalans, ces nationalistes qui viennent sur le territoire français. Alors c'est le début de ce qui va être le plus visible dans cette immigration et puis qui va aboutir aussi aux événements avec le Front Populaire, mais avec aussi les événements de 36 en Espagne.
Oui, ça c'est, je vous le disais tout à l'heure, c'est une vieille tradition espagnole, en effet, de trouver au milieu des vicissitudes politiques, un refuge en France. Et en effet, au moment de la dictature Primo de Rivera, qui est par certains côtés une annonce de ce qui va se passer plus tard, c'est-à-dire qu'au nom de l'unité nationale, on veut limiter les autonomistes et par conséquent, on persécute malgré tout, on réprime le catalanisme. Donc les Catalans vont venir dans cette région qui est toute proche, où ils ont leurs habitudes, hein, les relations entre Barcelone et le sud de la France, c'est quelque chose de tout à fait ancien. Et puis il va y avoir aussi cet anarchisme militant qui va se reformer en quelque sorte en France, car ces gens-là qui viennent, qui vont travailler en France, mais ce sont aussi des politiques, par conséquent des gens qui gardent malgré tout leurs attaches politiques en Espagne. Ça, c'est quelque chose de très fort. Par conséquent, ils viennent, mais ils viennent à titre provisoire. Ils ont bien l'impression qu'ils vont rentrer. En effet, quand la République, en 1931, va être proclamée en Espagne, il va y avoir un grand appel d'air. Et une partie de ces gens-là vont repartir dès 1931. Et puis plus tard, il y en a d'autres, ou des descendants d'Espagnols qui partiront en 1936, parce que, en effet, la République est menacée par le soulèvement des militaires espagnols. Et à ce moment-là, beaucoup de ces gens qui se trouvent en France vont repartir pour se battre en Espagne.
Alors il y aura aussi des Espagnols qui vont s'exiler en France avec des flux importants, migratoires, et vous aurez effectivement ces personnes qui seront placées dans des camps.
Oui, alors ça, on ne peut pas ne pas y insister, parce que d'abord ce sont des gens qui ont souffert de cet exil, de ce refuge, et aussi ce sont des gens, il faut bien essayer de rappeler ce cas tout de même exceptionnel. D'abord il y a plus de 100 000 personnes qui vont rester en France. De ces gens qui vont passer la frontière en 1939. Ensuite, ce n'est pas simplement les camps qui vont les recevoir, mais il faut penser que ces gens qui ne sont pas en quelque sorte accueillis véritablement comme des exilés politiques vont passer de camp en camp, de camp de travail en camp de travail, et que pendant, on ne leur reconnaîtra le statut de réfugié politique qu'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'entre 1939 et 1945, ils seront mis à part, soit dans des camps, tout simplement, qu'on appelle des camps de concentration, soit dans des camps de travailleurs, et cela va durer longtemps. Et cela n'empêche pas qu'on les ait recrutés, en particulier dans les compagnies de prestataires, pour servir l'armée française en 1939. Ça n'empêche pas que certains d'entre eux, dans ces compagnies de prestataires, vont se trouver, au moment de la grande débâcle de 1940, entraînés dans la débâcle et se retrouver dans des camps de prisonniers. Et cela va même très loin, puisque plusieurs milliers d'entre eux vont trouver la mort dans les camps d'extermination allemands.
On en voit d'ailleurs qui sont enrôlés par l'organisation Todd.
Certains seront enrôlés dans l'organisation Todd, certains autres iront, seront tout simplement des déportés du travail que l'on enverra avant les Français en Allemagne, comme d'autres étrangers d'ailleurs. Il y a donc eu véritablement une souffrance qui a duré. Et en même temps, il y a cette chose extraordinaire. Et ces gens ont été à la fois des victimes de cet isolement, de ces camps, et en même temps, ils ont été peut-être parmi les, je ne dirais pas les premiers, hein, c'est pas vrai, mais parmi les premiers à prendre les armes pour défendre à la fois leur dignité et en même temps la France. La guerre a donné la résistance. Les premiers maquis de la zone sud, ou quelques-uns des premiers maquis de la zone sud, ce sont des Espagnols qui les ont tenus. Et nous le rappelons, parce que c'est une chose importante, il faut me rappeler à cela, c'est que les Espagnols qui ont servi aussi, ont servi dans l'armée française, dans la Légion bien sûr, et que les premiers tanks qui sont entrés dans Paris au moment de la libération sont des tanks espagnols. Ils sont occupés par des équipages espagnols. Et que les noms de ces blindés qui sont marqués sur ces blindés, c'est Teruel, Guadalajara, etc. C'est une partie de la résistance française qui est en même temps la résistance espagnole.
Émile Temim, on a l'impression que 1956 constitue une date charnière dans l'histoire de l'immigration espagnole, puisque le gouvernement espagnol autorise l'Office national français d'immigration à s'installer à Barcelone, puis à Irún. Et donc on a l'impression qu'une nouvelle population plus importante, en tous les cas, va migrer. Ce sont des gens pauvres, souvent des personnes en charge de famille, qui vont essayer de faire passer des devises en Espagne.
Tout à fait. Là c'est le grand changement. Il y a eu une période où, au fond, on ne passait d'Espagne en France que clandestinement pour la plupart des travailleurs qui venaient ou des familles qui se regroupaient. Et une période longue, finalement, où même s'il était possible de passer la frontière, cette frontière était quand même fermée. Et puis en 1956, entre 1956 et 1958, il y a toute la transformation de l'Espagne franquiste. Il y a l'arrivée de la nouvelle génération, il y a la décision d'ouvrir les frontières et de laisser partir, même de pousser à partir un certain nombre de travailleurs espagnols, parce que on a besoin de devises et parce que ces gens-là, au fond, ils vont se former en France, et s'ils reviennent en Espagne, ils formeront ils seront des travailleurs déjà formés, déjà solidement formés, et d'autre part, ils vont envoyer de l'argent. Et cet argent-là, ces remises des immigrés espagnols, ça va servir énormément. Alors, on va voir effectivement ce déferlement à ce moment-là. C'est un véritable déferlement, un nouveau déferlement, mais celui-là est d'un autre type. C'est le déferlement de ces travailleurs qui vont bien sûr aller vers les départements du Midi, mais aussi vers tous les départements industriels et surtout dans la région parisienne, et qui vont être tellement nombreux que la migration espagnole finalement deviendra un moment court, parce que l'Espagne va peu à peu devenir un pays économiquement développé. Par conséquent, à ce moment-là, la grande migration s'arrêtera. Mais il y aura effectivement un déferlement à ce moment-là de la migration espagnole. C'est un moment court, c'est la fin de la grande migration européenne. La migration italienne commence à se ralentir, la migration espagnole vient recouvrir cela, et puis tout cela va s'arrêter avec le développement économique des deux péninsules.
La composante religieuse va-t-elle contribuer à l'insertion, en tous les cas au soutien de ces personnes migrantes, puisqu'on a vu qu'une bonne partie de ces populations migrantes venant d'Espagne étaient politisées, mais c'est aussi une population qui est très marquée par un catholicisme traditionnel, d'une certaine façon, qui va d'ailleurs se trouver confrontée à la laïcité française, mais également au mouvement politique.
Oui. Dire que le fait que ça soit une population catholique ait tellement favorisé l'intégration, je pense pas. Les missions espagnoles qui sont envoyées sur le territoire français sont un peu comme les missions italiennes, chargées au contraire d'encadrer et de garder en quelque sorte leur hispanisme, comme les missions italiennes étaient un peu chargées de garder également l'italianisme des immigrés. Alors, d'autre part, il y a d'une part, effectivement, la masse des républicains espagnols qui, eux, sont pour la plupart, je ne dirais pas des christianisés, mais peu pratiquants pour la majorité, sauf les Basques, bien sûr. Mais les Basques, c'est un cas particulier. Et puis, naturellement, la grande migration dont nous parlions il y a un instant, la grande migration économique des années fin 50, début 60, celle-là est peut-être plus attachée. Et une des choses, justement, dont avait peur le gouvernement franquiste en laissant partir cette masse, c'est que justement, on allait se trouver devant une population qui allait ou qui risquait de se déchristianiser. Ces gens-là, ces travailleurs, sont allés dans les régions ouvrières qui étaient déjà déchristianisées en France. Alors, on ne peut pas dire que le catholicisme ait favorisé leur intégration.
En 1990, les recensements en France font apparaître qu'il y a officiellement 216 000 Espagnols. C'est vrai que dans l'histoire de cette immigration, certains d'entre eux ont été naturalisés. Que peut-on retenir de l'histoire de cette immigration espagnole dans la société française?
Ce qu'on peut en retenir, c'est d'abord une très forte imprégnation d'une partie de la population qui s'est trouvée dans ces départements très anciennement hispanisés du Midi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dominante géographique qui est cette interpénétration du Midi de la France et de l'Espagne. Et là, nous avons à la fois une population qui s'est très vite intégrée, parce qu'elle trouvait justement en face d'elle des gens qui la connaissaient bien, et en même temps une population qui a gardé et qui a donné peut-être très fortement une partie de sa culture, sa culture au quotidien, aux villes qui les ont reçues. Je pense à des villes comme Béziers, je pense à des villes comme Nîmes ou Arles, où encore on se retrouve à certains moments de l'année, comment dirais-je, en territoire espagnol. L'Espagne et la France, ici, il y a une symbiose absolue. Et puis, il y a autre chose. Il y a le fait que, à travers cette migration qui s'est peu à peu implantée, installée, bon, il y en a une partie qui sont revenues, mais il y a une migration ancienne qui s'est installée, qui s'est installée en France, et qui, peu à peu, de génération en génération, s'est francisée, mais en gardant toujours. Alors ça, c'est, je crois, quelque chose de tout à fait important. En gardant toujours, que ce soit des intellectuels, certains très brillants, qui font honneur à la littérature espagnole et à la littérature française, ou que ce soit, disons, des gens plus modestes intellectuellement, c'est cette symbiose dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce fait de garder à la fois d'être en même temps des Français, mais de toujours garder un attachement pour l'Espagne. Ça, je crois que c'est particulièrement fort chez tous les groupes espagnols ou d'origine espagnole qu'ils soient. Et j'en voudrais comme preuve, c'est peut-être pour terminer justement, le fait que très souvent, on trouve aujourd'hui, et j'en ai rencontré récemment justement en travaillant sur cette migration, les petits-enfants des immigrés espagnols installés en 1939 qui viennent vous trouver en disant « moi, je me réinscris en quelque sorte dans cette histoire, je suis parfaitement français, nous sommes parfaitement français, mais en même temps, nous voulons nous rattacher un petit peu à l'Espagne ». Et je crois que c'est cette double culture qui est peut-être plus forte chez les politiques que chez les autres et quelque chose qui est spécifique à l'immigration espagnole.
Cabinet de curiosité, ces populations qui ont fait la France avec Pierre Temim, historien, extrait du film Tony de Jean Renoir, 1934. À lire Toute la France, histoire de l'immigration en France au XXe siècle, édition BDI, Somogy. Retrouvez les livres sur le Minitel 3615 France Culture. Recherche Ina Martin-Auger, Caroline Chausset. Coordination Xavier Carrère. Prise de son Jean-Michel Couqui. Réalisation Malika Mesgache. Une émission d'Emmanuel Hirsch.
Cette émission a été diffusée la première fois le 28 octobre 1998 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las palas. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté. Cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos en el adiós postrero, barra, mi cuerpo enfermo no resiste más.
Guadalajara.